Cette émission vous est présentée par Natura Force, marque française de compléments alimentaires naturels et bio. La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Ah là là, le retour en studio, et Violaine.
Oui.
C'est incroyable. Moi, j'ai mis deux lapins. Et là, en direct des studios de Nutri Radio à Cagnes-sur-Mer, on est exactement. Hein. Donc, merci de vous déplacer. Merci
avec
d'être
plaisir.
Là.
Ouais, le son tellement en plus. Mieux.
Ben oui, parce qu'en plus, on n'est pas des amis de la technique, pour tout vous dire. Et surtout pas Violaine. Alors, moi, autant je suis un vague camarade, lointain, on va dire. Mais alors, Violaine.
Moi, je suis même pas fantassin.
Donc, on a eu des soucis. Déjà, c'était plus long de se connecter que de faire l'émission.
Exactement.
Enfin, donc là, vous êtes là avec nous. Comment allez-vous cette semaine, Violaine?
Écoutez, ça va très bien.
Vous êtes resplendissante. Je vous vois avec votre veste de pilote. Ça fait très pilote d'avion. Et d'ailleurs.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, ça fait partie du sujet de la semaine. Vous voyez cette transition. De quoi allez-vous nous parler?
Alors, j'ai décidé de vous parler des vols long courrier. Et puis, bien spécifiquement, comment se nourrir lorsqu'on a à peu près 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures de vol, Fabrice, avec l'idée sous-jacente qui est de savoir s'il y a des recommandations, s'il y a des choses à faire, à ne pas faire pour se sentir bien durant tout le vol et puis après lorsqu'on arrive à destination. Puisque comme vous le savez tous, hein, quand on prend l'avion, on peut avoir un appareil digestif, une digestion, un transit un petit peu compliqué, un petit peu nouveau ou alors avec des perturbations. Donc c'est de cela dont nous allons parler.
Oui, effectivement, des sensations nouvelles. Et vous avez eu cette idée-là, pourquoi? Parce que vous-même, vous prenez beaucoup l'avion, vous avez été loin récemment, alors, vous avez mangé un truc qui n'est pas passé. Oh là là, ça sent l'histoire,
l'anecdote croustillante.
Mesdames, messieurs, accrochez-vous,
attachez
vos ceintures.
Triste là-dessus. Non, je suis passionnée d'aéronautique, premièrement, donc j'adore ça. Ensuite, j'ai eu la chance, la grande joie de travailler avec l'armée de terre sur les rations de survie des pilotes de F1. Et du coup, tout ce qui est alimentation, nutrition liée à l'aéronautique, c'est un sujet qui me passionne. Parce que la pressurisation, l'altitude, a vraiment des conséquences intéressantes. Donc c'est un sujet vraiment que j'aime beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Sophie Tirette, qui est hôtesse notamment sur la compagnie Transavia, et qui m'a expliqué toutes les recommandations qui sont faites au PNC.
Au PNC.
Le personnel navigant.
D'accord, ok. Faites pas genre, s'il vous plaît, ça y est, PNC.
PNC dans le personnel navigant, pour pouvoir gérer au mieux sur le plan nutritionnel et alimentaire les vols.
Ah, parce qu'elles ont des recommandations spécifiques.
Ah oui, tout à fait. Ils ont des recommandations pour pouvoir au mieux gérer le vol, l'alimentation, puisque eux, ils travaillent, pendant que nous, on regarde des films dans l'avion. Donc, ils ont un certain nombre de recommandations. Donc, j'ai croisé tout ça. J'ai fait un certain nombre de recherches aussi pour mettre à jour les dernières données, puisqu'il y a pas mal aussi de compagnies aériennes qui ont fait des études pour voir l'impact de la pression, de l'altitude, sur le goût, sur la perception du goût. Ceci sans doute dans un objectif d'améliorer la qualité de la restauration au bord des avions, etc. Donc il y a plein de choses à raconter et j'espère que ça vous intéressera.
Ah ben, je suis déjà très intéressé. J'espère que, j'imagine pour vous, chers auditeurs, c'est aussi le cas parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On prend l'avion, on prend généralement ce qu'on nous donne, maintenant peut-être un petit sandwich en plus, mais c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'il y aura des conséquences ou qu'il faut qu'on adopte un comportement particulier et on ne pense pas assez au PNC finalement.
Ah ben oui, non. Mais eux, ils
sont forts, mais non, c'est bien que les compagnies ils soient sensibles et que voilà, on va voir ça en détail dans un instant pour la suite de cette émission. Et c'est bien parce que j'ai même pas besoin de vous couper.
Maintenant, je vous vois.
Ah là, ça commence à venir. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio, vous avez toussé pendant le générique, vous êtes entendu tousser?
Oui.
Voilà, bah, ce ne sera pas monté, voilà, c'est diffusé, d'accord. C'est comme ça.
Pardon.
Violaine Chaumont, la nutrition et vous sur Nutri Radio, toujours très intéressant, ces émissions avec Violaine, qui est diététicienne, on le rappelle, et qui va nous parler cette fois de l'alimentation en avion.
Oui.
Pour les vols moyens ou court courrier, parce que pour un vol d'une heure, l'alimentation, on a une vague idée de ce que ça peut être.
Ouais,
ça
un gâteau,
va.
Ça va.
Petit gâteau, un verre d'eau, on est bien. Moi, ça me fait toujours rire d'ailleurs, ceci étant dit, pardon, petite parenthèse, ça me fait toujours rire quand on prend l'avion pour faire une heure d'avion et qu'on voit le personnel qui arrive avec les plateaux, les trucs, les machins, comme si on était affamé. Alors qu'on vient, je me suis dit, bon, bah, il faut faire tourner la machine. Mais...
Oui, mais c'est la qualité de service.
Voilà, c'est le service avant tout. Alors, Violaine, par quoi allez-vous démarrer?
Alors, je vais commencer par vous expliquer l'impact qu'a la pressurisation et l'altitude sur l'organisme, tout simplement, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il faut savoir. Et du coup, vous comprendrez par la suite les recommandations qui sont faites tant au PNC qu'aux voyageurs. Alors, tout d'abord, la pressurisation de l'avion. Comme vous le savez, Fabrice, la pressurisation, c'est le système qui permet de maintenir l'intérieur de l'aéronef à une pression qui est compatible avec la survie et qui permet de pallier aux différentes variations de la pression atmosphérique, parce que plus vous montez, plus la pression atmosphérique descend. Vous savez ça. Ça, vous êtes un montagnard, mais...
Non, pas vraiment, mais pour l'instant, ça va.
Donc voilà, donc la pressurisation est le système qui permet de maintenir une pression viable dans l'aéronef malgré la perte de pression atmosphérique, parce qu'à 11 000 mètres, la pression n'est pas du tout la même. Et en général, la pression que vous avez dans la cabine, on appelle ça l'altitude cabine, c'est à peu près 1 800 à 2 000 mètres. Ça correspond à une altitude de haute montagne. Donc quand vous faites un vol à 11 000 mètres, vous subissez finalement l'altitude d'un montagnard qui vivrait ou qui ferait du sport à 1 800 à 2 000 mètres. Donc forcément à ce niveau-là, vous avez des conséquences au niveau de la pression atmosphérique puisqu'elle n'est pas la même que lorsque vous êtes sur Terre. Et cette pression atmosphérique, elle va avoir plusieurs impacts sur plusieurs mécanismes, dont on va parler, qui est notamment le taux d'oxygène dans l'organisme, la déshydratation, la sécheresse de la muqueuse nasale, l'expansion des gaz dans le corps, vous voyez ce que je veux dire, et la perception du goût. Alors je vais vous les passer en revue, vous allez voir, c'est intéressant. Alors tout d'abord, la sécheresse de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de la pressurisation de l'avion, donc vous êtes à 1 800 à 2 000 mètres en altitude cabine par exemple, vous avez l'air qui est renouvelé dans l'avion. Et cette air vient de l'extérieur et elle passe par les compresseurs des réacteurs, donc elle est chauffée, elle est filtrée, elle est débactérisée, etc. Cependant, l'humidité dans un avion est à peu près aux alentours de 12%. Déjà pour des raisons purement technologiques, c'est-à-dire que humidifier un peu plus l'air coûte très cher et en plus ça apporte du poids à l'aéronef, que 12%, bon, c'est la température, c'est l'humidité qu'on a en général. Et par petite comparaison, généralement en France c'est 70%. Dans le Sahara c'est entre 20 et 30%. Donc vous voyez, 12% on est assez bas. Et ça, vous allez le voir tout à l'heure, hein, ça entraîne des conséquences sur la muqueuse nasale, sur la sécheresse des muqueuses, sur la déshydratation. Donc vous voyez venir les recommandations en matière d'hydratation et de liquide qu'il va falloir consommer pendant le vol. Ensuite, comme je l'ai dit, vous avez une diminution de la pression atmosphérique et cette diminution de la pression atmosphérique sur votre organisme entraîne, c'est une loi physique, hein, l'expansion des gaz. Donc forcément, tous les gaz que vous avez dans l'organisme, qu'ils soient dans les intestins, dans les oreilles, etc., vont avoir tendance à prendre plus de place et vont avoir tendance à être plus nombreux. Donc c'est à l'origine notamment des ballonnements, des perturbations du transit, etc. Et c'est aussi le problème, c'est aussi lié au problème que l'on a dans les oreilles avec la pression au moment de la montée et de la descente. Donc ça, c'est lié à la pression atmosphérique qui descend et à l'expansion des gaz. Et puis ensuite, il y a une étude très intéressante qui a été menée par la Lufthansa en 2010 dans un énorme simulateur en Allemagne, pour vérifier si ces changements de taux d'oxygène, ces changements de pression pouvaient influencer la perception du goût chez les voyageurs. Et ils se sont rendus compte que la perception du salé et du sucré était 30% moins importante quand on est dans un avion à 11 000 mètres d'altitude, ce qui fait que souvent les plats peuvent paraître un peu fades ou paraître un peu trop sucrés ou salés justement, mais on a une perte de perception du goût sucré-salé. Et ils ont fait aussi, c'était assez amusant à lire, des tests sur différents vins. Par exemple, le vin qui est très alcooleux ici sur Terre paraît très bon dans l'altitude, alors que les vins corsés paraissent très fades. Les épices sont toujours perçues de la même manière. Donc vous avez aussi une perception du goût qui est différente, ce qui va entraîner un changement de l'appétit, un changement de la manière de consommer. Et puis ensuite, j'en ai parlé juste avant, hein, de la digestion qui est perturbée par l'hypobarie, par le fait que la pression atmosphérique n'est pas du tout la même que sur Terre, donc vous avez des ballonnements, vous pouvez avoir un transit accéléré ou au contraire complètement ralenti, vous avez un appétit qui change, vous n'avez pas faim, vous avez faim, et puis en plus de ça, se greffe par-dessus l'ennui. Quand on est à bord d'un vol long courrier, et manger fait partie des occupations en même temps que regarder des vidéos. Le stress aussi qui peut induire un certain nombre de réactions dans l'organisme et perturber votre appétit. Alors une fois qu'on a dit tout ça, et bien on va parler de recommandations à suivre lorsqu'on est à bord d'un vol long courrier ou avant même de monter dans l'avion pour venir calmer ces problèmes de sécheresse, de déshydratation, de troubles digestifs et de perception du goût. Donc il y a tout un tas d'astuces à savoir.
Bien, alors je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite et les astuces de cette émission dans un instant sur Nutri Radio avec vous, Violaine Chaumont.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont, sur Nutri Radio, la suite de cette émission, la nutrition et vous, c'est l'heure des astuces. Alors on parle aujourd'hui, vous avez écouté sans doute l'expansion des gaz, voilà, c'est comme ça, c'est le sujet du jour et c'est ce qui s'arrête. Non, c'est ce qui se passe notamment quand on prend l'avion sur des vols long courriers, en altitude. Notre corps finalement, notre organisme est soumis à rude épreuve avec un taux d'humidité extrêmement faible par rapport à celui auquel on est confronté en France qui est de l'ordre de 70%, là on est à 12%, une modification de la perception du goût, d'où le fait de sentir des choses peut-être un peu plus sales et un peu plus sucrées. Les vins notamment, vous nous avez donné cet exemple qui est bon, enfin qui était intéressant, pardon. Finalement, ça sert à rien de servir du vin de qualité douce. Vous qui nous écoutez et qui êtes dans l'aviation, servez de la merde à vos clients, pardon. Je plaisante, évidemment, pardon. Mais on a une perception du goût, donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et donc, il y a des astuces pour prévenir un petit peu, anticiper et préparer notre organisme à ce vol long courrier, qu'on parle de long courrier, à partir de 6 heures d'avion.
Oui, 5-6 heures d'avion. Enfin, pour moi, je pense qu'à partir de 4 déjà.
À partir de 4, pour vous, c'est long courrier?
Non, c'est moyen courrier, mais oui, dès lors que la compagnie aérienne va vous proposer déjà une prestation de restauration, un déjeuner ou un dîner, déjà là, il y a des recommandations à suivre et puis 3-4 heures d'avion à haute altitude et dans des conditions de pressurisation et d'humidité telles qu'on l'a définie. Non, ça nécessite quand même de prendre quelques précautions. Alors bon, l'idée, c'est pas non plus d'être inquiété sur le plan nutritionnel avant de prendre un avion parce qu'on monte à bord d'un avion. Mais pour ceux qui voyagent beaucoup, pour ceux qui ont tendance à avoir des désagréments au cours d'un vol hein, ou de s'inquiéter en plus des problèmes de circulation sanguine, en plus des problèmes autres hein, qu'on peut avoir à bord d'un avion, c'est intéressant de savoir ce qui est recommandé au PNC. Et que j'ai croisé que j'ai croisé avec d'autres recommandations que j'ai pu trouver sur tout ce qui est recommandations aéronautiques, etc.
Si vous avez des hôtesses de l'air que vous voulez interviewer, je peux le faire à votre place, elles sont les bienvenues. Hein,
ah, mais je pense que Sophie Tirette, qui est absolument passionnante, sera tout à fait capable
pour la nutrition, pour l'intranutrition. Et d'ailleurs, question très sérieusement, alors je ne sais pas si vous serez à même d'y répondre maintenant, là, comme ça, tout de suite, mais est-ce que vous pensez que les menus qui nous sont proposés à bord d'un vol long courrier, ils sont aussi étudiés par rapport à notre transit, par rapport à ce contexte, parce que j'ai pas forcément l'impression. Alors les menus, il y a certaines compagnies qui proposent des menus un peu adaptés, un peu sympas, mais sinon il y en a, on se dit, elles font tout pour que ce soit pire encore hein.
Oui. Non, mais ça dépend vraiment des compagnies aériennes. Je lisais pour préparer cette chronique notamment toute une étude qu'avait fait Singapore Airlines pour améliorer les plats sur le plan nutritionnel, sur le plan antioxydant, sur le plan transit, etc. Mais prioritairement, je pense que la restauration doit être un moment plus ou moins de plaisir à bord. Donc je pense que l'accent est surtout mis sur des plats adaptés, mais aux végétariens, plats indiens, ceux qui veulent un repas plus light, plus gastronomique, etc. Oui, je vous vois lever les sourcils, mais il faut que vous soyez une bonne compagnie.
Non, mais je vous dis quelqu'un qui a jamais. Non, mais vous avez raison. Mais... Alors, allez, vous voyagez en classe affaires ou en business ou en première classe.
Pas du tout.
Mais nous, dans la soute, vous savez, dans la soute, on a des os.
Ah oui.
On a des os.
Vous vous faites passer pour une bourgeoise, mais absolument pas. Bah
non, pas du tout. Il y a vous, il y a Cécile Petureau, on a bien compris. Non. Simplement, je voulais dire que vous avez parlé de la nourriture indienne. C'est vrai que si on n'a jamais expérimenté la nourriture indienne, je suis pas sûr que ce soit à 10 000 km qu'il fallait se dire, tiens,
non, mais c'est pour
si je mangeais indien maintenant.
Non, mais c'est pour les populations indiennes.
Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est ça, d'accord.
Ouais, l'alternative indienne n'est pas proposée sur tous les vols. Hein. Ça dépend vraiment de la fréquentation et des habitués des compagnies aériennes hein, et des trajets que vous faites. C'est sûr que pour faire un Paris-Nice.
Oui, Paris-Nice.
Pas proposé par Air France, je vous l'accorde. Mais j'ai souvenir d'avoir travaillé il y a 10 ans de ça pour la compagnie qui s'occupe de la préparation des plats pour les compagnies aériennes, enfin la majorité de notamment. Des aéroports de Paris. Non, on ne peut pas dire que la nutrition, ce soit un des critères. En plus, ça couvre généralement qu'un repas. Donc forcément, la personne qui va consommer ce plat, on mise surtout sur le côté gustatif, plaisir si possible, avec une alternative poisson, viande, voire vegan, des légumes, des féculents, pour proposer quelque chose quand même de relativement équilibré et bon. Mais quand on voit les travaux faits notamment par Lufthansa, hein, je vous en parlais tout à l'heure, ils cherchent vraiment parfois à améliorer les saveurs par rapport justement à ces impacts de la pressurisation sur les muqueuses nasales, sur la perception du salé, du sucré. Lufthansa, d'ailleurs, dans son étude, précisait qu'en avion, le goût du jus de tomate était vraiment meilleur que sur Terre. Donc, ils avaient une consommation à bord de jus de tomate beaucoup plus importante. Mais ça vient sans doute des perturbations. Parce que si on sent moins le sucré, moins le salé à bord, on va se tourner vers des plats ou des boissons qui sont plus attrayantes.
Et ben voilà, ça c'est aussi une recommandation pour les parents qui nous écoutent. Si vous faites un vol long courrier avec vos enfants, ils ont du mal à manger des tomates à la maison. Regarde, goûte-moi ça. Et vous allez voir, c'est ouais. Bon maman, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du jus de tomate.
Et après, ça sera mieux que des sodas ou le gaz, voilà. Du coup.
Et après, on revient à la maison. 10 000 km plus bas. C'est quoi ce truc là? Mais si, rappelle-toi, tu adores ça, mon petit Lucas, du jus de tomate. Alors, quelles sont les recommandations? Et je vous refais une question, vous répondez quand vous voulez d'ici la fin de l'émission quand même.
Oui.
Est-ce que les menus proposés aux passagers sont les mêmes qu'au personnel navigant, justement?
Alors non, ils ne sont pas du tout les mêmes de ce que m'a expliqué Sophie Thirène, non plus pour les pilotes, pour des raisons de sécurité tout simplement. Ne serait-ce que d'éviter l'intoxication collective de l'ensemble des passagers, des pilotes, du personnel navigant. Non, 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 il y a des plats différents.
Très bien. Alors, quelles sont les recommandations?
Alors, les recommandations, elles sont à différents niveaux. Alors, si on parle de la première conséquence, la sécheresse liée à une humidité très faible de 12% dans l'aéronef. Alors, les recommandations qui sont faites au personnel navigant, c'est de boire à peu près un verre à deux verres d'eau par heure, pour maintenir un état d'hydratation de l'organisme et un état d'hydratation des muqueuses. Oui.
Bien, deux verres d'eau par heure. Donc là, on est sur les recommandations. Et après, on va dire que ce sera la fin de cette émission. Vous êtes d'accord avec moi, Violaine?
C'est-à-dire, je ne comprends pas.
On fait... Après, les recommandations,
qui
c'est...
Qui êtes-vous?
Après, parce qu'il faut qu'on fasse une dernière pause avant la fin de l'émission. Est-ce qu'on l'a fait maintenant ou est-ce qu'on l'a fait...
J'ai fait les recommandations, puis c'est terminé.
Voilà, très bien. Alors, je vous propose qu'on fasse une dernière pause. Comme ça, on se prend les recommandations d'une seule traite et on les garde en mémoire. C'est juste
après...
Vous avez
raison, Fabien. bien joué.
C'est juste après ceci.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio. Alors pardonnez-moi parce que je vous coupe avec mes questions et tout et du coup...
Moi ça me va bien, c'est interactif.
Ça perturbe un petit peu peut-être votre déroulé, mais sur les recommandations, on parle cette semaine de l'alimentation qu'il faut avoir dans un avion, en particulier sur les vols moyens et longs courriers. Alors vous avez interviewé une hôtesse de l'air. Pourquoi vous avez fait ça d'ailleurs? Pourquoi vous êtes un...
Parce qu'à chaque fois que je prépare une chronique, j'essaye de me mettre à jour de toutes les dernières données, qu'elles soient réglementaires, nutritionnelles et puis pratiques. Donc tout ce qui concerne par exemple l'alimentation à bord d'un avion, forcément il y a le côté pratique du personnel navigant et des pilotes. Donc je fais à chaque fois ça pour ne pas vous donner de vieilles informations qui auraient été revues, critiquées et absolument plus pertinentes. Donc je fais ça à chaque fois. Donc j'essaye d'interroger ou de vérifier sur le plan pratique, hospitalier, médecine de ville, donc là tout ce qui peut être compagnie aérienne, les recommandations qui sont proposées.
Bah, c'est une très bonne idée et donc on l'a vu, le personnel navigant qui a une alimentation adaptée et qui tient en compte les spécificités de fait d'être tout le temps à 10 000 mètres d'altitude. Et puis pour nous, qui prenons l'avion pour ces vols-là, il y a aussi un impact sur notre organisme, un impact qui peut ne pas être négligeable, avec un inconfort certain. Et donc, quelles sont les recommandations? On l'a vu avec l'expansion des gaz, mais quelles sont les recommandations?
Il y a des expansion.
Ouais, expansion.
Voilà, j'ai compris, extension.
Oui,
c'est pour les tendons.
Voilà, ça c'est pour les tendons. Non, l'expansion, effectivement, des gaz. Alors, quelles sont les recommandations? Vous nous avez dit juste avant que je vous interromps, c'est deux verres d'eau par heure.
C'est à peu près entre 200 et 250 ml par heure, donc ça fait un à deux verres d'eau, ça dépend de la taille du verre bien évidemment. Mais l'idée c'est de boire chaque heure du vol, de manière à s'hydrater, de rester hydraté, puisque la faible humidité de l'avion peut entraîner de la déshydratation. Mais surtout, il y a un autre point qui est important, c'est que la sécheresse assèche les muqueuses nasales. Et vous savez, quand vous consommez un produit, donc vous l'ingérez, etc., vous avez quand même des molécules de saveur, etc., enfin l'odeur, etc., qui va remonter à l'arrière du nez et qui va participer à la perception de l'odeur. Et du fait que l'humidité est extrêmement basse, qu'il y a de la pressurisation, vous avez tendance à avoir les muqueuses nasales qui gonflent et du coup les molécules odorantes ne peuvent pas atteindre les zones de perception de l'odeur. Donc du coup, boire de l'eau régulièrement, en plus de vous hydrater, va vous permettre de retrouver quasiment, mais de mieux percevoir les saveurs, c'est-à-dire de mieux percevoir le goût du sucré, le goût du salé, parce que les muqueuses nasales seront plus hydratées, moins asséchées, elles capteront plus les odeurs, et vous serez plus dans des conditions optimales pour pouvoir consommer. Donc souvent, il est recommandé de boire aussi avant de manger pour pouvoir retrouver un niveau de saveur correct, et ne pas être complètement asséché, et du coup d'être dans une atmosphère complètement, pas stérile, mais presque au niveau des odeurs. Et puis en plus de ça, il était reconnu qu'en sous pressurisation, les molécules odorantes se dispersent moins dans l'air, donc on les capte moins. Donc tout ça fait que le plat peut paraître fade, etc., et que l'on peut être tenté de rajouter du sel, de rajouter du sucre, parce qu'on ne perçoit pas. Alors que finalement, si on faisait une analyse nutritionnelle du plat, il serait parfaitement correct sur le plan, on va dire, de l'assaisonnement.
D'accord.
Donc boire, c'est important. Et par contre, évitons de boire des choses qui sont trop diurétiques, hein, comme le café, parce que l'idée, c'est de rester hydraté, donc c'est pas de boire et d'éliminer trop vite. De même, évitons les boissons qui contiennent des gaz, comme le gaz carbonique, des boissons, des sodas, etc. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a l'expansion des gaz, donc ces gaz vont avoir tendance à vous provoquer des crampes, des ballonnements et à perturber votre transit intestinal. Et puis en plus, le gaz carbonique a tendance à dilater les vaisseaux de tout le système digestif, donc vous absorbez beaucoup plus vite, et notamment si vous buvez de l'alcool, imaginons le champagne, ça débulle ça de l'alcool, l'effet de l'alcool va être multiplié par 2 par 3. Voilà.
Alors, on a un effet, mais la quantité, par contre, elle ne change pas.
Non, la quantité ne change pas, mais par contre, l'absorption par l'organisme va être beaucoup plus rapide, parce qu'il y a cette dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du tube digestif. Et en plus de ça, vous subissez quand même l'effet synergique de l'hypoxie, pas l'hypoxie au sens médical du terme, mais le fait qu'il y ait moins d'oxygène dans l'avion et donc dans l'organisme. Mmh. Donc du coup, vous avez une alcoolémie qui est perçue de manière complètement différente, et l'effet est potentialisé x2, x3. C'est pour ça que vous êtes assez restreint en vol. Si vous consommez de l'alcool, les hôtesses ou les stewards, à un moment donné, vont vous dire « Attendez, je dois demander au commandant de bord si je peux vous donner plus d'alcool. » C'est vraiment très, très, très géré et très contrôlé du fait de cet effet plus qu'euphorisant qu'en train de la pressurisation. L'idée, ce n'est pas non plus de tomber par terre dans l'avion ou en cas d'évacuation, d'être complètement scotché à son siège par incapacité d'eux. Puis sans parler des vrai. Comportements qu'on peut avoir pour certains lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool. Donc ça, c'était pour donc boire. La perception du salé et du sucre, comme je vous l'ai dit, il faut boire aussi avant pour pouvoir essayer de retrouver une perception à peu près normale en hydratant les muqueuses de la bouche, etc. Après, il est recommandé aussi de fractionner les repas. Alors, Sophie me disait, il est recommandé pour le personnel navigant de fractionner les repas de manière à ne pas alourdir la digestion qui est perturbée à cause de la pressurisation, à cause de la baisse de pression, le transit qui est accéléré, qui est ralenti, etc. Et c'est vrai que pour le personnel navigant qui travaille, vous avez aussi l'obligation de rester éveillé et quand même de travailler. Donc, l'idée de fractionner les repas, c'est de ne pas alourdir la digestion pour ne pas être trop fatigué. Et il leur recommande aussi, et c'est très intéressant, je pense, pour les voyageurs, de ne pas manger trop lourd, parce que la digestion est perturbée et ralentie. Donc on va plutôt miser sur des glucides complexes, d'accord, et non pas des glucides rapides, du sucre, pas trop de protéines et pas trop de lipides, parce que ça, ce sont des molécules qui soit vous endorment, comme les glucides, on en a déjà parlé, les glucides simples, soit les protéines et les lipides qui sont difficiles à digérer. Donc il est souvent recommandé d'ailleurs, on recommande aux voyageurs, avant de prendre un vol long courrier, d'essayer de prendre par exemple, alors soit des fruits sans trop de fibres, alors je parlais de la banane par exemple, qui va contenir des glucides qui vont avoir un index glycémique relativement bas, hein, mais ça va être pas mal pour pouvoir calmer la glycémie, pour pouvoir se nourrir sans trop s'alourdir, etc. Et puis après, au bord de l'avion, vraiment éviter, ça va avec, hein, par rapport à la digestion, tout ce qui est trop riche en fibres, tout ce qui est trop sujet à fermentation, même les lipides qui sont cuits, hein, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à digérer pour l'organisme, et ça peut vraiment vous poser des désagréments. Vaut mieux manger la petite plaquette de beurre qui n'est pas cuite,
d'accord,
ouais, que d'aller manger quelque chose d'extrêmement gras, parce que c'est proposé, forcément des plats très gras c'est proposé, hein, le gras c'est la vie, c'est le goût.
Gras c'est la vie.
Donc forcément c'est aussi utilisé. Donc voilà, donc fractionnement des repas, des aliments qui sont faciles à digérer. Alors, quand on voit des recommandations de spécialistes, bon, je ne vais pas dire que ça me fait rire, parce que je suis d'accord avec eux sur le fait que le smoothie est quelque chose de bien. Parce que vous avez quand même des vitamines, vous avez de l'eau, vous avez, des antioxydants, vous avez un minimum de fibres. Alors, certains disent qu'il faudrait préparer ces smoothies à l'avance. Mais bon, avec les contrôles de sécurité, comment voulez-vous vous balader?
Ah oui, là, c'est pas possible, on a déjà du mal à faire passer une bouteille d'eau.
Oui, voilà, mais bon, après, ça peut être pris à bord de l'avion, enfin c'est rare qu'on propose des smoothies, mais voilà, l'idée elle est plutôt là, d'avoir des aliments faciles à digérer avec des glucides complexes ou du moins des produits avec un indice
franchement ce serait top
assez,
ça
assez bas
dans une dans un vol qu'on nous propose, qu'on nous fasse nos smoothies avec, vous savez, on a les légumes, alors qui veut banane, kiwi, bébé mec, hein, franchement oui. Ce serait top ça, oui. Petit concept, hein, moi il y a des compagnies aériennes qui développent comme ça des concepts. Alors moi je me souviens qu'il y avait une compagnie, je crois que c'était Air France, il me semble, hein, qui sur des vols courts, sur les vols de nuit, il proposait d'aller faire la fête, c'était quoi, Paris Ibiza ou je sais pas quoi, et dans l'avion c'était la fête.
C'est vrai?
Ah ouais, avec avec musique, ambiance, lumière, etc. Et donc ah, vous n'avez pas connu ces concepts-là?
Non, c'était avant les attentats et avant tout un tas de,
ah, il me semble, oui,
de problèmes aériens. Parce que aujourd'hui, mais pourquoi pas, c'est comme les bus à Paris, vous pouvez faire la fête dans un bus.
Bah, c'était pareil dans un avion. Bon, il y a eu deux crashs, ils ont arrêté. Mais non, je plaisante, évidemment. Mais en tous les cas, c'était un concept qui existait. Mais je reviens en plus, je réfléchis à ce que vous m'avez dit, à ce que vous nous avez dit sur la potentialisation de l'alcool en altitude. Mm-hmm. Du coup, ouais, j'imaginais que ça devait être assez.
Oui, ça devait être des avions privés, peut-être.
Assez, non, je ne suis pas sûr. Non, non.
Les compagnies aériennes s'engager sur le côté festif du vol.
Oui, mais je ferai des recherches. On en reparlera dans votre prochaine émission la semaine prochaine, car c'est déjà l'heure de se quitter.
Ah, eh oui, merci Fabrice de m'avoir écouté.
C'est benant, mais auditeurs, moi je vous écoute pas. Ce sont les auditeurs qui vous écoutent. Moi, je suis là vaguement.
Merci Fabrice. Merci à tout le monde.
Je vous écoute évidemment. Émission, si vous l'avez prise en route, eh bien à retrouver à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Violaine.
Merci Fabrice.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.